Les amours malades, chapitre 21. Le lendemain du bal, je restais allongée dans mon lit bien après que le réveil eut sonné. Je n'avais aucune envie de devoir affronter Michael, qui, cependant, j'en étais convaincue, se serait fait discret. J'avais honte de moi pour plus d'une raison, et je ne désirais aucunement mettre en parole les idées qui torturaient ma pauvre cervelle. Quant à regarder en face Hélène Ledoux, c'était simplement inimaginable. Laurent vint frapper à ma porte après s'être aperçu sans doute que ma voiture était encore dans l'allée. Je le rassurai et me levai à contre-cœur. « Tu as exagéré cette nuit, » voulut-il savoir après m'avoir dévisagé longuement, alors qu'assis devant son bol de chocolat, il me regardait me préparer un café. « Tu n'es pas rentré tard, pourtant. »« Ce sont les parents qui surveillent les enfants, pas le contraire, » maugréai-je. « À un certain âge, il vaut mieux se méfier. »« Ah, charmant !»« Tu vas être en retard ?» Je décrochai le téléphone et avertis l'infirmière que j'arriverais tard, que j'avais des patients à voir hors du service et qu'ensuite je mettrais à jour des dossiers. Je ne voulais pas être dérangée, s'il y avait des problèmes, qu'il s'adresse à Michael. « Tu n'as jamais fait une chose pareille, qu'as-tu ? » « J'ai exagéré hier soir. »« Comme tu veux, papa, garde tes secrets, j'ai l'habitude. » J'embrassai mon fils dans les cheveux, puis allai m'enfermer dans la salle de bain. Quand Michael entra dans notre bureau, je bafouillai un bonjour sans relever la tête. Il n'insista pas, passa quelques coups de fil, puis raccrocha bruyamment. Je sursautai. « Je viens d'appeler la dialyse. Kevin va bien. Mais tu le sais, n'est-ce pas ? » ?»« Je suis allée lui rendre visite ce matin. J'ai vu Aline et son bébé, et puis j'ai fait un saut en pédiatrie. »« Ils ont eu de la chance, ces gens-là. Des dossiers terminés. Mais personne n'y a cru. Tu le sais que dans cet hôpital, toi et moi sommes une légende. Nous n'avons jamais de paperasse en retard. Les seuls dans tout le CHG. Les secrétaires doivent parler, car tout le monde est au courant. Alexandre, vas-tu me regarder à la fin ?» Je levai les yeux au ton exaspéré de mon assistant. « Ne me demande rien, » pleurai-je. Je n'en avais pas l'intention. « Ce week-end, je t'emmène à Lyon. »« Non, tu n'as pas le choix, » ajouta-t-il alors que j'allais protester. « Le patron veut te voir quand tu en auras fini avec tes dossiers. » Michael se leva et fit le tour de son bureau, puis vint m'embrasser. « Tu pouvais tout de même me dire bonjour. »« Ah, heureusement que tu devais reprendre tes distances. » L'entretien avec le professeur Ledoux fut très formel. Elle m'appela docteur Mouret d'un bout à l'autre de notre conversation, et mes « madame » sonnaient terriblement froid. Nous ne fîmes aucune allusion à la soirée de la veille. Hélène semblait fatiguée. Peut-être avait-elle exagéré, elle aussi. Je me l'imaginais dans les bras de M. Tessier, et ma froideur augmenta. Nous nous laissâmes gênés et mécontents. Comme il me l'avait pratiquement imposé, Michael m'emmena à Lyon pour faire du shopping et me désintoxiquer de l'air irrespirable qui régnait dans le service. Il m'était impossible de résister à la gentillesse de Micha, à ses attentions, à son humour caustique ou tendre. Je me laissai entraîner dans les magasins qu'il choisit et acceptai ses conseils en matière de jeans et autres babioles. Nous rentrâmes à l'hôtel, chargés comme des mulets. Nous abandonnâmes notre butin dans nos chambres respectives et nous retrouvâmes au bar pour un apéritif. Je pris un perrier en demandant qu'on me le portât non débouché. Nous nous étions assis un peu à l'écart parce que Michael avait déclaré qu'il voulait me parler sérieusement. « Une demande en mariage !» Je n'aimais pas ce préambule, car je savais pertinemment que quel que fût le sujet que Michael voudrait aborder, il serait douloureux. « Tu m'as raconté une grande partie de ta vie, Alexandre, mais je n'ai pas encore compris certaines de tes manies. Ta façon de manger complètement aberrante, ton goût pour le café des distributeurs, le fait que tu veuilles que l'on t'amène tes bouteilles encore closes. Ce soir, tu vas m'expliquer cela, car je n'en peux plus de te voir agir ainsi. Je suis convaincue, en outre, que cela te fera un bien immense. » Je commençai alors à lui narrer l'origine de ce qu'il nommait mes manies. Un dimanche que j'avais emmené Laurent au musée du Louvre, nous rentrâmes plus tard que prévu car mon fils était intéressé par tout ce qu'il voyait et nous avions oublié l'heure. Quand nous arrivâmes à la maison, Léa râla bien un peu, mais sans plus. Nous passâmes à table. Nous avions faim et nous nous jetâmes sur nos assiettes, purée et saucisses grillées. Je refermai ma bouche sur la première fourchettée de purée et commençai à déglutir. Ma langue, l'intérieur de mes joues et ma gorge furent alors envahis par des dizaines de petites piqûres. Je recrachai immédiatement les pommes de terre, ce qui provoqua d'autres lésions au palais et aux lèvres. La purée se teinta de sang. Laurent hurla. Léa me regarda d'un air vainqueur. Je courus dans la salle de bain, la langue pendante et sanguinolente. Je tentai de me rincer la bouche, mais de minuscules morceaux de verre étaient plantés un peu partout dans ma cavité orale, et je dus, avec une pince à épiler, les ôter un à un. Ce fut long et épuisant. Je ne souffrais pas, mais l'idée que Léa ait pu commettre une pareille action me sidérait. Elle n'en avait mis que dans mon assiette, car Laurent, qui avait commencé à manger avant moi, était fort heureusement indemne. Je craignais que certaines esquilles aient terminé le long de mon œsophage et dans mon estomac. Mais il était hors de question que je me rende au SAMU pour une fibro. Après cet épisode, d'autres eurent lieu, différents, mais à chaque fois fort désagréables. Plats trop salés, trop poivrés, laxatifs ou diurétiques dans le jus de fruits. J'en vins à ne plus manger à la maison. Je prenais mes repas au self de l'hôpital ou au restaurant. Puis un jour, que nous étions à une réception, je me retrouvai avec du sel dans mon café, et je le vomis immédiatement. Depuis lors, je refusais peu à peu d'absorber ce qui n'avait pas été préparé par moi ou qui n'était pas hermétiquement clos. Je maigris épouvantablement et mon ulcère s'aggrava. Michael me contemplait incrédule. Alexandre, mais pourquoi ne me l'as-tu pas raconté quand je t'ai parlé d'anorexie? Je craignais que tu te moques de moi. Seigneur, mais comment peux-tu imaginer que... Tout cela est arrivé il y a 10 ou 12 ans, et j'en suis encore là, tu te rends compte? À la maison, je mange ce que Laurent prépare, mais c'est la seule personne en qui j'ai confiance. Je ne peux pas aller au restaurant, au self, ou chez qui que ce soit. Je ne parviens même pas à boire un café au bar. Tu comprends? Je comprends, oui. Ce doit être un calvaire. C'est une question d'habitude. N'est-ce pas? Tout est une question d'habitude. Tu en as tellement des habitudes, Alexandre, et de tellement mauvaises, qui plus est. Alexandre, as-tu confiance en moi? Bien sûr que j'ai confiance en toi. Mais dans ce cas, c'est plus fort que moi, même si tu devais me préparer. Non, non, ce n'est pas à cela que je pensais. Bien, j'ai une idée. Nous nous retrouvâmes assis dans un restaurant avant même que je comprenne ce qui m'arrivait. Il s'agissait en outre d'un restaurant gay, à en juger par les couples assis autour de la table. Apparemment, Michael connaissait bien le lieu et plusieurs serveurs le saluèrent comme un habitué. J'étais plus intrigué qu'inquiet, car je savais qu'après lui avoir raconté la vérité, Michael ne me contraindrait pas à manger contre ma volonté. Il commanda pour deux, les mêmes plats, chuchota au serveur des mots que je ne saisis pas, et me posa une main rassurante sur le bras. « Je suis sûre que ça va marcher, tu verras, » me fit-il confiant et excité à la fois. Le garçon posa une assiette de charcuterie devant Michael, mais rien devant moi. J'observai Michael curieux. Il coupa en deux une tranche de rosette, prit un morceau de pain qu'il coupa également en deux, puis mit dans sa bouche saucisson et pain. Il avala consciencieusement. Puis il posa ce qui restait de la rosette sur ce qui restait du pain et me le tendit au travers de la table. J'ouvris la bouche et acceptai la béquée, étonnée de ne pas ressentir l'angoisse qui m'avait étreint lorsque j'avais déjeuné au self quelques jours auparavant. Michael partageait diligemment chaque bouchée en deux, mangeait le premier, puis lorsqu'il avait terminé, m'offrait l'autre moitié. Nous mîmes un temps fou à finir notre souper, sous les yeux surpris de certains commensaux qui, j'en étais convaincue, étaient jaloux de ne pas être traités aussi bien par leur partenaire. D'autre part, Michael, qui attirait les regards simplement en entrant dans une pièce, ne pouvait pas passer inaperçu en se comportant de cette façon. Le choix du restaurant gay s'était expliqué à la lueur de la pantomime à laquelle nous nous prêtâmes. Au café, Michael but un peu dans chaque tasse avant de me l'étendre. Nous n'avions pas prononcé un mot depuis le début du repas. Nous restâmes en silence, quelques instants encore, les yeux dans les yeux. « Comment te sens-tu ? » m'interrogea enfin Michael légèrement anxieux. « J'ai l'impression de me sentir parfaitement bien. » Michael tendit sa main au travers de la table et saisit la mienne. Il entrelaça ses doigts aux miens, puis il me sourit. Cela s'appelle de la rééducation à l'alimentation. Ce n'est pas ainsi qu'on l'a décrit dans les livres de médecine, mais il y a tant de désordres alimentaires qu'il est nécessaire de trouver une solution à chacun d'eux. J'aime beaucoup ta méthode, quoi qu'il en soit. J'en suis très heureux. Michael me quitta devant ma porte de chambre et m'embrassa chastement comme à son habitude. J'aurais voulu le serrer contre moi, lui prouver ma reconnaissance autrement qu'en acceptant ses témoignages de tendresse, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Une simple poignée de main entre nous serait apparue ridicule. J'avais envie d'un contact physique, mais je ne voulais pas donner à Michael l'illusion de pouvoir aller trop loin. Je restais donc les bras ballants, comme toujours, lorsque je recevais mon habituel papillon. Une fois couché, il me fut impossible de m'endormir. Je revoyais tous les gestes de Michael, sa patience, sa douceur. Je l'avais à peine remercié, et pourtant, ce qu'il avait inventé pour moi représentait plus qu'il n'imaginait. J'avais fait confiance à une autre personne. Je m'étais abandonnée à un autre être humain, et cela, Je ne l'avais pas fait depuis des années. Il ne s'agissait pas de la confiance que j'éprouvais envers mon collaborateur. Cette confiance-là, j'étais capable de la donner à lui et à d'autres médecins, aux infirmières. Non, il s'agissait d'un abandon total. Je lui permettais d'avoir sur moi un certain pouvoir, une certaine influence, chose que j'interdisais à quiconque, Laurent et Quentin mis à part. Je me levai et décidai de le rejoindre pour lui expliquer ce que je ressentais. Il vint m'ouvrir immédiatement. Ses longs cheveux blonds étaient pour une fois libres sur ses épaules. Il ne portait que ses jeans, car le chauffage était réglé sur une température trop élevée à son goût. Je le soupçonnais de se rendre dans quelque institut de beauté, car sa peau arborait un hâle que le soleil de janvier était incapable d'offrir. Il s'assit de nouveau contre les oreillers qu'il avait empilés et referma un livre qu'il avait laissé ouvert à l'envers sur le drap. Le titre allemand ne me dit rien. « Je te dérange ?» demandai-je en indiquant le bouquin. « Pas du tout. Viens ici. » Il tapota la place libre à côté de lui. Je m'y assis. Il prit un des oreillers dans son dos et le cala derrière moi, puis me regarda. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» Je secouai la tête sans répondre. « Moi non plus. Certaines choses... » Un téléphone se mit à vibrer. Il était 2 heures du matin. Michael regardait son portable avancé sur la table de nuit où il l'avait posé. La vibration le déplaçait en minuscules secousses. Il se décida enfin à répondre. Conrad. Luc? Quand? Comment? Michael s'était levé et se mit à arpenter la pièce. Sa voix était tendue à l'extrême. Vous voulez que je vienne maintenant? Non, bien sûr, je comprends très bien. Nous nous verrons lundi. Appelle-moi si vous avez besoin de quelque chose. Michael raccrocha et alla appuyer son front à l'une des fenêtres. Je me levai à mon tour et le rejoignis. Je posai mes mains sur ses épaules. Il se laissa aller lourdement contre moi. Katia est morte. Je l'avais imaginé. Je resserrai mon étreinte sans parler. Ce soir, à 8 heures. Luc, son mari était avec elle. Michael se mit à pleurer. Doucement au début, puis de plus en plus fort. Il se retourna et se blottit contre moi. Ses varices se sont rompues, octa-t-il. Il y avait du sang partout, sur les murs, sur le plafond. Je l'éloignai un peu de moi et écartai ses cheveux qui, pris dans les larmes, se collaient sur ses joues que je caressais. C'est ce qu'elle désirait, Micha. C'est une mort épouvantable. Pour son mari, oui, pas pour elle. Tout a été très vite. J'aurais voulu être là. Michael recommença à sangloter. Il relevait la tête, l'agitait dans tous les sens, refusant de se calmer. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Je l'embrassai sur le front en lui parlant doucement, puis un de ses mouvements brusques fit terminer ma bouche sur ses lèvres. Je l'ai pris. Avec douceur et avec infiniment de tendresse, puis avec plus d'ardeur, et enfin c'est avec fougue que nous échangeâmes notre premier vrai baiser. Michael continuait à pleurer, les yeux fermés, tout en m'embrassant. Son visage tout entier avait un goût de sel. Je le baisai pourtant avec ferveur, puis ma bouche trouva sa gorge, ses épaules nues, ses mamelons et son nombril. Je posai mes mains sur sa ceinture. « Relève-toi, » me supplia Michael en me tirant à lui. « Pas comme cela, pas comme cela, Alexandre, tu vas trop vite. Ce n'est pas ce que je veux de toi, viens ici. » Il me poussa doucement sur le lit, et tout en me fixant au travers des larmes qui perlaient encore à ses paupières, il me déshabilla complètement puis se dévêtit à son tour. Je veux te voir, tout entier. Je veux te regarder. Regarde-moi, Alexandre. Je suis un homme à part entière, et toi aussi. Je veux que tu le fasses seulement si tu en as envie, pas par pitié ou par reconnaissance. Mon envie était aussi évidente que la sienne, car contrairement à ce qui m'était arrivé chez Isabelle, je n'avais eu ici aucun problème. L'idée que ce fût la douleur de Michael à m'exciter m'effleura, puis m'abandonna aussitôt. Mais tu es infernal! Je me laissai guider par mon ami. Comme je l'ai déjà dit, j'étais toujours très attentif à l'autre durant l'amour et cela m'aida. Je savais ce qui me plaisait lorsque j'étais au lit avec une femme, et je savais comment rendre ce plaisir. Avec un homme, tout était à découvrir. Michael était un professeur attentionné et patient, et moi, un bon élève. Michael reposait à présent la tête sur ma poitrine. Il entortillait sur ses ongles parfaitement manucurés les poils grisonnants de mon thorax. C'était la seconde fois de la soirée que je m'abandonnais à Micha, et j'en ressentais un bien-être que je n'éprouvais plus depuis les premières années de mon mariage. Il ne s'agissait pas de la simple béatitude que pouvait offrir un rapport sexuel, mais de cette joie de partager avec une autre personne les mêmes sensations, d'être unis dans le même bonheur, et de se sentir à la fois libre et lié sans contrainte. Je respirais profondément comme pour cueillir au sortir du flacon magique de Quentin cet air vivifiant et pur de haute montagne. Mais dans le silence de Michael flottait l'esprit de son ami. Je suis navré pour Katia, chuchotai-je en déposant un baiser dans les cheveux de mon assistant. Il hocha la tête. J'aurais seulement voulu lui tenir la main. C'était Julia qui était de garde. Elle a empêché qu'on la réanime. Elle n'était pas obligée de le faire. D'autres se seraient pliés au protocole. Pas les internes de chez nous. Lorsqu'un malade a émis ce genre de souhait, nous l'avons toujours respecté. C'est vrai. Je suis heureux qu'Hélène et toi en ayez décidé ainsi et que vous acceptiez d'assumer ce genre de responsabilité. Tous les chefs de service n'en font pas autant. Hélène est une femme exceptionnelle. Et tu l'aimes. Micha! Michael releva la tête et s'appuya sur un coude. Il souriait doucement. « Dis-moi le contraire, si tu l'oses, » fit-il imitant la voix d'un enfant. « Nous venons à peine de faire l'amour, et tu... » Je n'arrivais pas à poursuivre. Michael avait raison. J'aimais Hélène de toute mon âme, mais je ne pensais pas être capable d'intéresser encore une femme. J'étais même convaincue que mes problèmes restés en suspens l'auraient fait fuir, que mes manies l'auraient affolée. Sans parler de ce que ma sexualité totalement incohérente aurait provoqué. Micha, toi, m'aimes-tu? Alexandre, tu ne dois pas poser de questions si tu n'es pas prêt à en entendre la réponse. Encore une fois, Michael se montrait le plus raisonnable. Il était inutile que nous nous fassions de grands serments. Il existait entre nous un lien particulier. L'appeler amour ou par un autre nom ne changeait rien. Ce que nous avions vécu ce soir avait été voulu tant par Michael que par moi. J'étais heureux d'être là avec lui et il en était de même pour lui, bien que je craignis que de la part de Michael, le sentiment fût plus profond. Je savais toutefois qu'il n'attendait rien de moi et qu'il savait à quoi s'en tenir. Sa question au sujet d'Hélène en était la preuve. J'espère que tu ne crois pas que j'ai fait ça par dépit, par intérêt ou par pitié. J'avais réellement envie de toi. Je le sais, Alexandre, n'aie pas peur. Je sais aussi que tu es complètement paumé et que si quelqu'un ne te montre pas comment il faut t'aimer et te faire aimer, tu n'aimeras plus jamais, et tu ne te laisseras plus jamais aimer. Pourquoi devrais-tu être ce quelqu'un? Pourquoi devrais-tu risquer de te faire du mal pour m'aider? Sais-tu ce qu'est l'amitié, Alexandre? Je t'ai déjà dit qu'à part Philippe, le pédiatre dont je t'ai parlé, tu es la seule personne que je puisse considérer comme un ami. Mais il ne s'agit pas d'amitié. Et de quoi s'agit-il? Nous ne deviendrons pas amants, Alexandre. Ce soir, j'avais besoin de toi et toi de moi. D'autres amis se seraient peut-être saoulés ensemble. Nous, nous avons fait l'amour. Et je le ferai de nouveau, ajouta Micha en me caressant le bas-ventre. Ma réaction fut immédiate. On se calme, docteur Mouret, on se calme, se mit à rire Michael en tirant sur le drap. Je veux t'aider parce que tu es mon ami. J'aimerais tant que tu y vois clair, que tu redeviennes Alexandre d'avant, celui d'avant ton mariage, ou du moins des premières années de ton mariage. Je voudrais que tu retrouves la joie d'aimer, car je sais que tu as tant à donner. Tu n'as pas le droit d'y renoncer. Tu ne dois pas t'inquiéter pour moi. Je ne suis pas en train de te sacrifier mon amour. Je t'offre mon amitié inconditionnelle. Je ne pouvais pas répondre à ces mots car l'émotion m'étouffait. J'avais peur de finir en larmes. Je me soulevai et c'est moi qui, pour la première fois, déposai un papillon au coin des lèvres de Micha. Michael éteignit la lumière puis se laissa glisser contre moi. Il mêla ses jambes aux miennes puis murmura qu'il était tard et qu'il était épuisé. Je connais un nombre incroyable de berceux, si tu veux en profiter, proposai-je en promenant mes mains sur son dos musclé. Et ta voix, comment est-elle? Magnifique. Laurent et Quentin se sont toujours endormis très vite quand je chantais pour les endormir. Je suis certain qu'ils s'endormaient pour ne plus t'entendre. Bah, si c'est ce que tu appelles l'amitié. J'aimerais bien t'écouter, toi. Crois-moi sur parole, il est préférable que je ne chante pas. Par contre, je peux te raconter une belle histoire. Vraiment? C'est l'histoire d'un chef de clinique qui, un soir de bal, s'enfuit avec une vilaine sorcière. Quand il fut parti, le pauvre grand patron se trouva fort dépourvu et refusa de danser avec son prince charmant. Elle resta assise pendant un long moment à fixer la chaise vide qu'avait laissée le chef de clinique, puis elle prit son portable et appela un taxi. Son prince essaya bien de la convaincre qu'il serait immensément heureux de la raccompagner avec son propre carrosse, Mais la dame refusa et regagna seule et bien triste son humble chaumière. Te plaît-elle mon histoire, petit Alexandre? Tu me la racontes une autre fois, dis? Il est tard, il faut dormir maintenant. Je te la raconterai un autre jour.